France Inter.
Merci d'écouter France Inter. Il est 13h. Voici le 13-14, Céline Asselot.
Bonjour à tous et bienvenue. C'est un espoir, mais c'est un espoir prudent que celui des familles des otages. Les deux franco-israéliens aux mains du Hamas depuis 15 mois figurent sur la liste des 33 premiers otages libérables. Emmanuel Macron l'a annoncé il y a un peu plus d'une heure, mais quand aura lieu cette libération? Tous les otages dans la bande de Gaza sont-ils encore d'ailleurs en vie? Beaucoup de questions demeurent. On ira à Tel Aviv, d'autant que l'accord de trêve n'a pas encore reçu le feu vert des autorités israéliennes. Les discussions finales ont lieu en ce moment, nous dira notre correspondant à Jérusalem. On ira au ministère du Travail aussi au cours de ce journal, où les syndicats se sont réunis ce matin pour la première fois, invités par le Premier ministre à revoir la réforme des retraites. Mais tout le monde n'est pas d'accord, visiblement, sur les modalités de cette concertation. Le service national universel va-t-il disparaître? Bonjour Julien Nenni.
Bonjour.
En tout cas, le Sénat vient de supprimer des crédits budgétaires destinés justement au SNU.
Oui, ça sent le roussi hein, pour le SNU. Les sénateurs ont carrément voté sa suppression hier contre l'avis du gouvernement, si bien que même Emmanuel Macron réfléchit au bien fondé du SNU, alors qu'il avait promis sa généralisation il y a tout juste un an.
Merci Julien, et je vous dis à tout à l'heure pour toutes les précisions sur ce sujet. On parlera aussi dans les prochaines minutes du brevet qui ne sera finalement pas obligatoire pour passer en classe de seconde. Le gouvernement Bayrou contredit donc le gouvernement Barnier. C'est une date majeure pour les droits des femmes. Le 17 janvier 1975, la loi Veil était promulguée, légalisant le recours à l'IVG, qui était auparavant synonyme d'illégalité, d'humiliation même pour les femmes concernées.
La première question qu'il me pose, dit « qu'est-ce que t'as fait encore, salope ?» Les interrogatoires étaient réels. Un avortement, c'est un avortement. Et il est interdit. Et donc c'est bien que quelqu'un vous l'a fait.
Voilà le témoignage d'Huguette qui a avorté en 1964 à Suive. Et puis à 13h30, on va s'interroger sur les conséquences. L'accès à la contraception, à l'IVG, a-t-elle fait justement évoluer la sexualité des Français et des Françaises? La sociologue Cécile Thomé est avec nous. J'attends vos questions, vos témoignages. 01 45 24 7000. Et puis on parlera aussi de l'héritage de David Lynch qui a marqué le cinéma. Oui, bien sûr, mais pas seulement. Les séries télé, la musique aussi ont été ces terrains de jeu et d'expérimentation. Le service culture est avec nous pour en parler. Puis on entendra aussi Isabella Rossellini. Elle avait raconté il y a quelques mois au micro de Frédéric Pommier sa relation très forte avec le cinéaste américain. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Tous les deux ont été enlevés le 7 octobre 2023 dans le kibboutz de Nir Oz où ils vivaient avec leur famille. Ofer Calderon et Oad Yahalomi vont-ils être libérés dans les prochaines semaines? Les deux franco-israéliens, tous les deux âgés d'une cinquantaine d'années, figurent en tout cas sur la liste des premiers otages libérables par le Hamas. 33 otages sur cette première liste qui devraient donc retrouver leur famille au cours d'une première phase de 6 semaines en échange de la libération de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. C'est ce que prévoit l'accord de cessez-le-feu qui n'est pas encore validé, on va y revenir. Mais tout de même, cette liste, c'est une première étape, c'est un premier espoir pour Hadass Calderon, l'ex-femme d'Ofer Calderon.
Je n'ai pas dormi de la nuit, je n'arrive pas à y croire. On a attendu si longtemps ce moment, on a rêvé de ce moment. Mes enfants sont très heureux, je leur ai dit que leur père allait revenir, mais on ne sait pas comment il sera, vous comprenez? Parce qu'après 15 mois en enfer, on ne peut pas savoir. Il restera probablement à l'hôpital pendant un moment, il doit être très maigre, on les a affamés là-bas. Ce que je leur dis, c'est que ce n'est pas leur père d'avant qui revient, c'est un homme différent. On ne sait pas ce qu'on va voir. On n'a jamais eu aucune preuve de vie.
Hadass Calderon, dont les deux enfants aussi avaient été enlevés avec leur père, puis libérés quelques semaines plus tard. Elle était au micro de Paul Sertilange. Pas de preuve de vie, donc, on l'a entendu. Encore beaucoup de questions pour elle, comme pour d'autres proches. Bonjour Farida Noir.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Tel Aviv où des familles d'otages ont justement tenu une conférence de presse ce matin, juste après la publication de cette liste.
Oui, 4 familles d'otages qui ont pris la parole et notamment Daniel, le petit-fils d'Oded Livjitz, 84 ans, enlevé au kibboutz de Nir Oz, l'un des plus endeuillés et dont le nom figure sur la liste des 33 otages publiée ce matin. Il se dit soulagé mais reste anxieux.
Stress, because still we are not there, is going to be stressé. Parce que tant qu'il n'est pas là, le cauchemar continue. Je ne sais rien de son état, je prie pour un miracle. Mon grand-père a une mauvaise tension, il a été blessé. On n'a aucune nouvelle de lui. Et là, c'est la première fois qu'on a de l'espoir. Et j'accueille ce moment avec gratitude. À 84 ans, mon grand-père a été retenu en otage à Gaza. Et c'est inacceptable, dans n'importe quelle culture, n'importe quelle religion. Mais le monde a permis cela.
Apparaissent aussi sur cette liste les deux enfants Bibas, dont le petit Kfir qui aura 2 ans samedi avec leurs parents. Là aussi, on ne sait pas s'ils sont vivants. Autre enseignement, les 5 observatrices des jeunes soldats qui ont été enlevés à la lisière de Gaza le 7 octobre doivent aussi être libérés.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions depuis Tel Aviv, Farida Noir, avec les moyens techniques de Benjamin Thuot à vos côtés. Des premières libérations qui devraient donc survenir dès dimanche, si tout va bien, si l'accord de cessez-le-feu est validé par les autorités israéliennes. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Céline.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Jérusalem et le projet de trêve est justement discuté en ce moment par le cabinet de sécurité israélien.
Oui, réunion en cours. Ce cabinet de sécurité, c'est l'étape cruciale, essentielle pour valider cet accord donc du côté israélien. Une 15aine de ministres sont en train de voter pour ou contre et à la majorité simple, ils devraient, sauf énorme surprise, décider de valider l'accord. Cette réunion doit être suivie à 15h30 heure locale, 14h30 heure française, d'une autre réunion, cette fois du cabinet élargi avec tous les ministres, simple formalité. Et puis l'État hébreu va publier une liste de détenus palestiniens libérables. Ils seront entre 1000 et 1600. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés après le 7 octobre, sans lien avéré avec l'attaque terroriste du Hamas. Des citoyens ou des associations, des groupes de pression, auront alors 24 heures pour déposer des recours devant la Cour suprême. Et c'est seulement à l'issue de tout ce processus que l'accord pourra être appliqué. Le gouvernement israélien espère procéder aux premiers échanges dimanche à partir de 15h heure française. C'est ce que vient de communiquer le bureau du Premier ministre. Il y a encore quelques inconnus dans le calendrier, mais en Israël, l'armée, les hôpitaux, tous les services concernés se préparent à accueillir les 3 premiers otages, 3 femmes. Elles auront passé plus de 470 jours prisonnières du Hamas ou d'autres organisations islamistes.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Et puis on apprend à l'instant via des médias égyptiens que l'Égypte accueille aujourd'hui des discussions techniques sur la mise en œuvre de cette trêve à Gaza. En tout cas aux États-Unis, Donald Trump se félicite déjà de cette victoire diplomatique. Nous avons changé le cours des choses et nous l'avons changé rapidement, dit celui qui n'est pas encore revenu dans le bureau ovale. En tout cas, la situation au Proche-Orient et l'évolution de ces dernières heures seront certainement au menu des discussions d'Emmanuel Macron cet après-midi avec les autorités libanaises. Le chef de l'État est en visite à Beyrouth. Visite express de 12 heures destinée à soutenir les nouveaux dirigeants du pays, notamment le président Joseph Aoun, élu il y a tout juste une semaine, et a rappelé aussi l'engagement de la France aux côtés des Libanais. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Et en direct de Beyrouth, Emmanuel Macron vient d'arriver au palais présidentiel, mais auparavant, il est allé à la rencontre des habitants.
Oui, une déambulation de café en café, dans la rue, des selfies en cascade, des encouragements, quelques applaudissements depuis les balcons. Le président a choisi le quartier de Gemaizé, même endroit, même rue qu'en 2020, lorsqu'il s'était précipité à Beyrouth après l'explosion du port pour s'afficher au milieu des décombres. Là, il avait couvert les Libanais de promesses. « Je ne vous lâcherai pas », avait-il lancé, et il avait sommé les forces politiques de constituer un gouvernement dans les 15 jours. Mais l'ultimatum n'avait eu aucun effet. Le vide institutionnel a duré 4 années. Un espoir déçu sur lequel une Libanaise blessée dans l'explosion dans la rue l'interroge.
Parce que le 6 août, quand vous êtes venu, on a été très déçus.
Moi-même, j'espérais qu'il y ait à ce moment-là un sursaut. Il a fallu 4 ans pour qu'il accouche. Mais moi, j'étais là même pendant les moments difficiles.
Oui,
mais c'était un peu bloqué.
Je suis venue vous remercier.
Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron revient sur ses pas, aussi pour vanter l'action diplomatique de la France pour le Liban, alors que son influence est ailleurs plus faible au Proche-Orient.
Il s'est battu pour les conférences de soutien, pour aider l'armée, pour le cessez-le-feu, pour en réengager l'Arabie Saoudite. Après, on ne peut pas se substituer aux forces politiques libanaises. Là, il y a eu un sursaut. Je crois que le nouveau président et le Premier ministre, c'est une nouvelle ère qui commence.
Il célèbre une nouvelle ère que la France seule n'aura pas réussi à provoquer. Résultat de l'implication de Washington, de Riyad, de Paris et surtout de l'affaiblissement du Hezbollah qui était le principal verrou du blocage politique.
Merci Marie Mollet avec Benjamin Troncin en direct de Beyrouth pour France Inter. 5 ministres et 10 partenaires sociaux autour de la table avec l'objectif de parvenir à une réforme des retraites plus juste, oui, mais aussi dans les clous de l'équilibre budgétaire. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
En direct du ministère du Travail où avait lieu justement ce matin ce pré-conclave, réunion préparatoire pour cadrer les concertations qui auront lieu au cours des 3 prochains mois.
Oui, c'était clairement un rendez-vous de méthode ce matin auquel les partenaires sociaux ont tous répondu présents, et partenaires sociaux qui sortent à l'instant même, on les voit, du ministère du Travail. Ils sont donc tous venus entre le patronat, le MEDEF qui ne veut pas revenir sur les 64 ans, hein, les syndicats venus pour leur part combatifs, parmi eux l'UNSA, son secrétaire général Laurent Escure, qui voit ici une chance de corriger cette réforme. Hein. Chaque mois en moins qu'on pourra arracher sera bon à prendre, a-t-il dit à son arrivée ici. Les syndicats qui veulent mettre au débat leurs propositions en remplacement de ces 64 ans. Pourquoi pas un système de cotisation sociale patronale qui viendrait s'y substituer. Chacun aura le droit d'ouvrir, de poser les questions qu'il souhaite, précisent les services de Matignon dans un communiqué qui vient tout juste de nous être adressé. Le Premier ministre qui veut partir d'un constat partagé, on le sait, qui a demandé à la Cour des comptes d'établir un chiffrage exact des besoins pour demain en matière de retraite, rapport audit qui sera rendu le 19 février par Pierre Moscovici. François Bayrou espère qu'il permettra de dépasser les différences nombreuses sur le sujet.
Voilà donc encore quelques semaines à attendre pour connaître les chiffres. Merci Maxime Debs en direct du ministère du Travail avec les moyens techniques de Corentin Bailly. Et c'est donc dans ce contexte de restrictions budgétaires que certains grands chantiers se retrouvent un peu à l'arrêt, voire carrément menacés de ne jamais voir le jour. Julien Nenny, on vous retrouve. C'est le cas notamment du service national universel. En janvier dernier, Gabriel Attal avait annoncé sa généralisation à la rentrée 2026, ce n'est ni possible ni souhaitable, dit aujourd'hui le Sénat.
Oui, et une fois n'est pas coutume, les sénateurs de gauche comme de droite sont d'accord sur ce point. Ils ont largement voté hier un amendement pour supprimer le service national universel, avec un argument qui porte en ces temps d'économie budgétaire. Généraliser le SNU pour les 15-17 ans, ça coûterait jusqu'à 5 milliards d'euros par an, selon la Cour des comptes. Les sénateurs ont préféré transférer l'essentiel du budget du SNU, 80 millions d'euros, vers le budget des sports, qui lui est à ce stade en nette baisse. Tout ça devra maintenant être tranché par les députés en février, à la fin du long chemin parlementaire de ce budget. Mais clairement, ce vote d'hier au Sénat est un clou de plus dans le cercueil du SNU. La généralisation de ce dispositif à mi-chemin entre service militaire et service civique, c'était pourtant dans l'esprit d'Emmanuel Macron l'une des réponses aux émeutes de l'été 2023, souvenez-vous. Mais le SNU n'a jamais vraiment décollé. Près de 140 000 jeunes seulement en ont bénéficié depuis sa création. Si bien que même dans l'entourage du président, ça fait déjà quelques mois qu'on a compris que le SNU était plus qu'en sursis. D'ailleurs, d'après nos informations, Emmanuel Macron prépare une annonce à ce sujet dès lundi prochain, lors de ses vœux aux armées.
Julien Nenny, service politique de France Inter. Une autre marche arrière, elle concerne celle-ci, la réforme du brevet. Le précédent gouvernement Barnier, avait annoncé que l'obtention du brevet allait devenir obligatoire pour passer en seconde. Ce ne sera finalement pas le cas. Elisabeth Borne est revenue sur cette mesure. La ministre de l'Éducation souhaite faire confiance aux professeurs et aux conseils de classe, dit son cabinet, pour valider les passages au lycée. Ce qui satisfait globalement Sophie Vénétité, c'est la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU.
C'est une bonne nouvelle, c'est là aussi quelque chose que nous avons exigé tout au long de l'année dernière, donc ça montre que notre message a pu porter. On a montré à quel point le brevet obligatoire, c'était finalement un problème scolaire, parce que ça allait trier les élèves, organiser une forme de relégation des élèves les plus en difficulté, et quelque part c'était aussi un problème social et démocratique. Quand on met de côté des élèves et qu'on les empêche de poursuivre leurs études au lycée, c'est aussi un problème social et démocratique. La ministre a, semble-t-il, entendu ces remarques. C'est une bonne nouvelle. Il va maintenant falloir y voir plus clair sur l'accompagnement des élèves les plus en difficulté à l'entrée en seconde. Mais ça montre là aussi que notre discours est capable de porter et ça va nous encourager, nous pousser à continuer la mobilisation pour l'avenir de l'école.
Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU avec Marion Ferrer. Il n'y aura pas d'économie sur le dos de la santé des Français. C'est le ministre de la Santé qui le promet ce matin sur France Info. Le budget va être réduit, mais Yannick Neuder évoque de simples mesures
déficience à hauteur d'une centaine de millions d'euros. Il promet par ailleurs de former plus de soignants et d'ouvrir des lits d'hôpitaux. L'hôpital qui fait face est difficilement à l'épidémie de grippe. Plus de 600 morts rien que la semaine dernière à cause du virus. Cela représente 7% des décès enregistrés dans le pays, du jamais vu, dit aujourd'hui Santé publique France. Bonjour Victor Dorin.
Bonjour Céline.
On savait que 87 hôpitaux avaient déclenché le plan blanc pour faire face à cette épidémie de grippe. Plan qui permet par exemple d'annuler des opérations non urgentes, mais beaucoup d'autres établissements sont sous tension. Sur les 130 hôpitaux sondés par le syndicat SAMU Urgence de France, un tiers déclare des incidents graves.
Ah oui, et 85% de ces établissements qui ont répondu au questionnaire du premier syndicat des médecins urgentistes ont dû activer leur plan hôpital en tension, le niveau juste en dessous du plan blanc. Des urgences débordées partout en France, des patients qui attendent des heures et des heures sur des brancards dans les couloirs et au bout de la chaîne, vous l'avez dit Céline, une surmortalité qui concerne surtout les personnes âgées. Pour Marc Noiset, président du syndicat SAMU Urgence de France, cette situation est principalement due à un manque d'anticipation. La prévention du côté de la vaccination a échoué, on le voit avec les chiffres très bas. Manque de prévention aussi pour le système hospitalier.
On sait qu'on va avoir besoin de plus de lits pendant l'épidémie grippale. On sait à peu près quand est-ce qu'elle arrive à son pic. Donc on devrait être en capacité de préparer le système de santé et de sanctuariser une place dans les hôpitaux pour éviter le marasme qu'on a constaté dans les services d'urgence. Et deuxième chose, sur la disponibilité des professionnels de santé, le pic est arrivé pendant les congés de fin d'année. Comment est-ce qu'on peut accepter que à ce moment-là, les professionnels soient majoritairement en congé, alors que les patients avaient besoin d'être soignés?
Les urgentistes réclament au gouvernement un plan national à déclinaison régionale pour anticiper les périodes épidémiques, sinon, conclut-il, on va prendre l'eau chaque hiver et finir par décourager tous les soignants qui restent encore à l'hôpital.
Merci Victor Dolande, spécialiste santé de France Inter. Il faudra tirer les conséquences de cette épidémie, dit aussi le ministre de la Santé, pour qui la vaccination obligatoire des soignants n'est pas une question taboue. Rien ne pourra effacer le droit de recourir à l'IVG 50 ans jour pour jour après la promulgation de la loi Veil. Emmanuel Macron se veut le garant de ce droit désormais inscrit dans la Constitution. Le chef de l'État rend hommage dans un message sur le réseau X à Simone Veil qui marqua l'histoire, dit-il, en défendant avec courage une loi pour les femmes. Il faut dire qu'avant 1975, avorter était synonyme d'illégalité, d'angoisse. Cette ancienne enseignante, Huguette Hérin, a ainsi eu recours dans les années 60 à une faiseuse d'ange, comme on disait alors. Victime d'une hémorragie, elle a dû aller à l'hôpital et s'est confrontée aux mots violents, aux mots injurieux du médecin qui l'a reçue.
La première question qu'il me pose, c'est « qu'est-ce que t'as fait encore, salope ?» Et il me dit « ah oui, toi aussi, t'as remué des armoires hier. » C'est ce que les femmes disaient. Moi, j'avais pas prévu de lui dire que j'avais sauté des marches du métro. Parce qu'en fait, les interrogatoires étaient réels. Un avortement, c'est un avortement. Et il est interdit. Et donc, c'est bien que quelqu'un vous l'a fait. Et en fait, c'est moi qui l'ai déclenché. Donc, il me laisse tranquille. Et il me dit « salope, de toute façon, tu vas dérouiller. Tu vas avoir mal parce que le curetage sans anesthésie, tu auras droit. » Je souffle un peu comme quelqu'un qui s'en fiche, quoi. Parce que il peut plus rien contre moi, il peut me faire mal. Il ne peut plus rien contre mon corps.
Témoignage recueilli par nos confrères d'ici Maine et justement ce que l'IVG, la contraception, a changé dans la vie, dans la sexualité des Français, des Françaises. Ce sera notre sujet à 13h30 avec notre invitée, la sociologue Cécile Thomé. Lui aussi a décidé de prendre la parole pour faire évoluer la société et lutter contre l'homophobie dont il a été victime. À Caen, vendredi dernier, Selim, 19 ans, a été pris à partie, frappé par une dizaine de personnes alors qu'il se trouvait dans le tramway. Le jeune homme a porté plainte, il a aussi témoigné sur les réseaux sociaux. Et William Delesseux l'a joint pour France Inter.
Dans sa vidéo d'un peu plus de 5 minutes, Selim, 19 ans, fait donc le récit de son trajet de tramway.
Un mec s'est levé, il crie fort devant ses potes « Ah, c'est un PD, lui, j'aime pas les PD ».
Après les insultes, le jeune homme décrit les coups, son visage marqué par les hématomes.
Il me mettait des coups de pied et tout, j'essayais de me défendre comme je pouvais.
Depuis, son témoignage a été reposté et vu par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Le jeune homme nous le raconte, il reste sous le choc.
J'ai l'impression d'être une autre personne, je ne peux plus être moi-même dans la rue. Je reste bloqué sur des objets à penser à ce soir-là, toute la journée.
Après sa publication, Selim dit avoir reçu un appel du commissariat de Caen pour l'encourager à venir déposer plainte.
Et quand je suis arrivé, on m'a dit « heureusement que vous avez fait votre vidéo sur les réseaux sociaux parce que vous n'aurez peut-être même pas rappelé pour venir déposer plainte ».
Cet impact des réseaux sociaux doit être suivi d'effet, souligne Véronique Serrazoli de SOS Homophobie.
Il faut vraiment montrer aux personnes qui témoignent et aux personnes qui regardent les personnes qui témoignent que la police sait se saisir de ce genre d'agression et que la justice sait sanctionner de façon juste et exemplaire.
D'autant qu'en moyenne, d'après les associations, seule une victime LGBT+ sur 5 dépose plainte en cas d'agression.
Les précisions de William Delesseux, et d'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, les crimes et délits homophobes ont augmenté en un an de 19%. La justice va-t-elle ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre? C'est en tout cas ce que souhaite la Conférence des évêques de France. Son président, Éric de Moulin-Beaufort, annonce avoir saisi la justice après de nouvelles révélations de violences sexuelles. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Et c'est une annonce qui est avant tout symbolique.
Oui, Éric de Moulin-Beaufort a fait mardi un signalement au procureur de la République de Paris pour non-dénonciation de viol et agression sexuelle sur personnes vulnérables et mineures, parce que la justice, dit-il, a des moyens d'investigation nécessaires pour que toute la vérité possible soit faite, pour trouver peut-être aussi d'autres victimes. Mais ce n'est pas si simple, déjà parce que l'abbé Pierre est mort en 2007, ce qui éteint toute possibilité d'action publique contre lui. Il peut toutefois y avoir un procès quand l'auteur est mort, s'il y a des complices, par exemple, procès pour non-dénonciation, mais là encore, cela semble peu probable. Le calcul de la prescription a beau être compliqué, les faits sont anciens, voire très anciens, et les victimes, désormais toutes majeures, sont donc considérées comme en capacité de porter elles-mêmes leur affaire devant la justice. Rappelons que seuls deux évêques ont été condamnés pour non-dénonciation, l'évêque d'Orléans en 2018, celui de Bayeux en 2001. Le cardinal Barbarin avait lui été relaxé en appel. Malgré ce signalement à la justice, les abus de l'abbé Pierre ne devraient donc pas prendre une tournure judiciaire.
Delphine Evenoux, merci beaucoup. Service police-justice de France Inter. On reprend les doudounes et les grosses chaussettes. Les températures repartent à la baisse. En cette fin de semaine, on va retrouver les prévisions météo d'ici une petite dizaine de minutes. Et dans le Poitou, eh bien, certains habitants doivent se passer de chauffage à Lezé dans les Deux-Sèvres. Le réseau de chaleur de la communauté de communes fonctionne mal. Il faut donc se passer de chauffage dans les locaux de la mairie, de la gendarmerie, mais aussi dans l'une des écoles maternelles, Julien Morcelli.
Devant les grilles de l'école, Nathalie est venue récupérer sa petite fille de 4 ans à l'heure du déjeuner.
Pour qu'elle mange à la maison au chaud et qu'elle soit à la sieste au chaud. Elle fait l'école que le matin.
Car dans les classes, la température ne dépasse pas les 14 degrés, confirme Aurélie, qui ressort avec ses enfants emmitouflés dans leur doudoune.
On est obligé de les couvrir, les enfants, au moins 4 couches sur le dos de mon fils.
À l'origine du problème, une fuite sur une canalisation souterraine entre l'école et la chaudière collective qui alimente une partie de la commune. Résultat, chaque hiver, c'est la même histoire.
L'année dernière, mon fils, il a presque pas été à l'école. Il a constamment été malade. J'ai même dû aller 3 fois aux urgences parce que chaque fois, il faisait des crises d'asthme à répétition. Donc les urgences, quand il l'entendait respirer au téléphone, tout de suite, vous venez aux urgences.
Plusieurs parents ont même décidé de retirer leurs enfants de l'école en attendant que le chauffage soit rétabli. Encore faut-il qu'il y ait du chauffage à la maison. Aline, qui a son fils scolarisé dans la même école, nous emmène dans son logement HLM, lui aussi privé de chauffage.
À sa chambre de mes enfants. Ça m'a ramené de la moisissure partout, il y a du noir partout. Le matin, quand j'ouvre les volets, il y a de l'eau qui ruisselle en bas de la fenêtre. C'est dégueulasse, quoi.
18 logements sont concernés par ce problème de chauffage qui perdure depuis plusieurs années. Les travaux tardent à commencer. Ils coûteraient entre 1 million et 1 million et demi d'euros, selon la communauté de communes.
Reportage ici Poitou de Julien Morcelli. Il était courageux, brillant, anticonformiste, dit de lui Nicolas Cage, qui avait incarné Sailor dans Sailor et Lula. Naomi Watts, qui elle jouait Betty dans Mulholland Drive, salue sa sagesse, son humour. Les hommages d'Hollywood continuent à affluer au lendemain de la mort de David Lynch, un homme qui aura marqué le cinéma, mais aussi l'art de manière plus générale. On va en parler avec vous tous les deux, Corinne Pellissier, Alexis Demeyer. Bonjour.
Bonjour.
Et impossible de parler de l'héritage de Lynch sans évoquer, Alexis, une série télé.
Federal Bureau of Investigation Regional Bureau Chief Gordon Cole. I'm Agent Cooper's supervisor.
La voix de David Lynch himself dans Twin Peaks, l'une des plus grandes séries de l'histoire et surtout la pionnière. Le 8 avril 90, c'est le choc pour 36 millions d'Américains qui découvrent en prime time sur ABC cet ovni audiovisuel. Le corps de Laura Palmer est retrouvé sur une plage et tous les habitants de la petite bourgade de Twin Peaks se demandent qui a bien pu tuer cette jeune fille a priori sans histoire. À la fois polar et soap-opéra, mélange de comédie et d'épouvante, Twin Peaks déconcerte mais passionne le public. David Lynch s'empare d'un genre très codifié et sans prestige, le feuilleton, pour en faire une œuvre artistique d'une profondeur remarquable qui est devenue culte à l'image de son héros Dale Cooper, alias Kyle MacLachlan.
Two cups of good,
hot black coffee like this.
La folie créative et l'ambition esthétique de Twin Peaks ouvrent la voie aux grandes séries des années 2000, Les Sopranos, The Wire, Six Feet Under, et l'univers angoissant et onirique créé par Lynch inspire les créateurs de Lost, X-Files, Desperate Housewives ou même Petit Quinquin. Et puis, cerise sur la cherry pie, David Lynch nous régale en 2017 d'une troisième et ultime saison, 18 épisodes aussi savoureux qu'émouvants, puisqu'on y retrouve les personnages 25 ans après, et ça n'a pas de prix.
Et on laisse quelques secondes, hein, juste pour le plaisir de ce générique de Twin Peaks reconnaissable entre mille. Et il faut dire, Corinne Pellissier, que la musique aussi était au centre de l'œuvre de David Lynch.
C'était même l'un des marqueurs clés de son cinéma, un véritable monde sonore reconnaissable entre mille. Quelques notes et vous étiez plongé en un clin d'œil dans une atmosphère d'étrange, un peu surréaliste, un peu dérangeante. Des BO qu'il signait seul ou en duo avec le compositeur Angelo Badalamenti de Twin Peaks à Blue Velvet, en passant par Sailor et Lula, Lost Highway ou ici Mulholland Drive, avant de se lancer en marge du cinéma, dont des productions solo d'albums, des collaborations avec la chanteuse Lakey Lee ou Mylène Farmer, dont il avait remixé le titre Je te rends ton amour l'année dernière. Plus jeune, il avait même fait partie d'un groupe de métal bruitiste. Un goût, un don pour la musique et plus largement pour le travail du son. Son premier film, Eraserhead, en 1977, en est le parfait exemple. Des mondes réels et fantasmés qui s'entrecroisent sur fond de bruit, de paysages industriels qui ont donné au film son atmosphère si singulière et menaçante.
Quelle carrière quand même que celle de David Lynch. Merci à tous les deux, Corinne Pellissier, Alexis Demeyer, pour cet hommage en images et en son. On vient de les entendre. Après West France ou Mediapart, c'est au tour de La Voix du Nord de quitter le réseau social X. Le quotidien dénonce ainsi, comme de nombreux médias avant lui, les dérives du propriétaire Elon Musk qui favorise désormais, je cite, la haine en ligne au détriment de la modération. Et justement, la Commission européenne annonce ce midi qu'elle va approfondir son enquête contre le réseau social soupçonné d'enfreindre ses obligations sur la modération des contenus. 13h26 sur France Inter. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on va retrouver les prévisions météo de Sébastien Léas pour voir comment se présente votre week-end, en tout cas côté ciel. Notre invité à 13h30 est la sociologue Cécile Thomé qui a mené toute une série d'entretiens avec des Français, des femmes et des hommes de 20 à 84 ans pour tenter de comprendre ce que la contraception a changé dans la sexualité, dans les couples hétérosexuels. La libération si vantée dans les années 70 n'est peut-être pas si complète que ça. En tout cas, les normes ont la vie dure. J'attends vos questions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. À suivre aussi le dernier épisode de notre feuilleton à la rencontre de Vincent Poirier, basketteur français installé en Turquie. Aujourd'hui, au micro de Marie-Pierre Véraud, il évoque sa passion pour les tatouages. C'est la France avec Violette d'Orange aujourd'hui, la Benjamine du Vendée Globe qui nous raconte sa course depuis le début. Et pas facile de rester motivé quand on sait que les premiers concurrents sont déjà rentrés au port.
C'est le passage de l'île des États. L'île des États, c'est une île qui est tout au bout de l'Amérique du Sud. Je me souviens aussi de l'odeur, je sentais la terre humide. Ça fait trop bizarre parce que ça faisait 2 mois que j'avais rien senti. J'avais pas senti l'odeur de la côte en fait.
Elle est déjà dans les premiers moments de ce Vendée Globe et on l'entendra plus en longueur tout à l'heure. Et puis c'est une chanson, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Et on va rendre ensemble hommage à David Lynch aujourd'hui.
Oui, en réécoutant ce que m'avait dit de lui l'actrice Isabella Rossellini cet automne. Ensemble, on avait évoqué la chanson du film Blue Velvet. Et elle m'avait parlé de sa rencontre avec David Lynch, de son amour pour lui, de leur rupture, de l'Oscar d'honneur qu'elle lui avait remis et même des textos qu'ils s'échangeaient de temps en temps.
Merci Frédéric, à tout à l'heure.
Au moment où s'ouvre ce livre, je romps une promesse. Lorsque je l'ai faite, c'est idiot, j'étais sûre que je la tiendrais. Enfin, idiot, je ne sais pas. La moindre des choses quand on fait une promesse, n'est-ce pas d'y croire ? Claire est accusée d'avoir frappé son ex-mari. Comment en est-elle arrivée là ? Comment une histoire d'amour peut-elle virer au drame au fil des mensonges ? Après le succès de Fille, Camille Laurence nous invite à célébrer l'amour au-delà des promesses trahies. Ta promesse, le nouveau roman haletant de Camille Laurence, aux éditions Gallimard.
Le prix BD Fnac France Inter 2025, parrainé par Rebecca Manzoni, a récompensé Au-dedans de Will McFay. Au-dedans est une histoire simple sur le cheminement d'un jeune homme renfermé, Nick, qui va lentement s'éveiller au monde pour y découvrir l'amour, mais aussi l'infinie tristesse. Will McPhail signe un premier roman graphique d'une grande finesse. Au-dedans de Will McPhail, prix BD Fnac France Inter 2025. Plus d'infos sur l'éclaireur Fnac et sur franceinter.fr.
Allez, tout de suite, les prévisions météo.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Et le soleil gagne un petit peu de terrain.
Et petit à petit, on devient moins petit. Alors le ciel est déjà bien dégagé de l'est de la Bretagne à la Touraine et au Berry jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, du Massif central au Languedoc-Roussillon et de la Provence aux Alpes et au Jura. Et l'après-midi restera largement ensoleillé. Dans les plaines du sud-ouest, les grisailles vont progressivement s'effacer au profit du soleil cet après-midi. En revanche, sur la Bretagne et de la Normandie, au Hauts-de-France, au bassin parisien et à l'Orléanais, ainsi que du Grand Est, au Lyonnais et au Dauphiné, les nuages bas resteront compacts et épais et l'ambiance sera parfois bien brumeuse. On peut quand même espérer quelques éclaircies le long des frontières nord entre l'Avesnois, les Ardennes et le nord du Bas-Rhin. Et puis enfin, du côté de la Corse, le ciel sera plus partagé avec alternance de belles éclaircies et de passages nuageux. Et le Grégal, un petit vent de nord-est. Oui, le Grégal. Vous connaissez le Mistral, vous connaissez la Trême.
On découvre le Grégal.
Le Grégal, c'est un vent de secteur nord-est, sera encore bien sensible cet après-midi. Les températures maximales sont-elles en baisse sur les régions de la moitié nord, alors que sous l'impulsion du soleil, le sud-ouest gagne quelques degrés. Prévoyez 1 à 6 degrés en général sur une large moitié nord et le centre-est, 8 à 13 degrés plus au sud, jusqu'à 16 degrés du côté d'Ajaccio. On attend par exemple 4 degrés à Paris et à Reims.
Merci Sébastien Léas de Météo France.
France Inter, le 13-14. Céline Asselot.
C'était il y a 50 ans, jour pour jour. Le 17 janvier 1975, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse était promulguée. La loi Veil, du nom de celle qui l'a portée, qui l'a défendue jusqu'au bout dans un contexte parfois très hostile. Quelques années auparavant, la loi Neuwirth avait légalisé l'accès à la contraception, de textes majeurs qui ont bouleversé la vie des femmes, la vie des couples, libérés de la peur des grossesses non désirées. Mais au fond, qu'est-ce que ça a changé dans la sexualité des Français, dans l'intimité de la chambre à coucher? C'est la question que vous posez dans votre ouvrage. Bonjour Cécile Thomé.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous avez publié il y a quelques semaines Des corps disponibles, où vous publiez notamment les entretiens que vous avez menés avec des femmes, avec des hommes âgés d'une vingtaine d'années à 84 ans, je crois, pour les plus âgés. Alors vous dites que la contraception n'a pas tant libéré que façonné la sexualité hétérosexuelle. On va évidemment en parler, mais j'aimerais bien qu'on commence par l'avant-pilule, voilà, pour le dire vite. La contraception aujourd'hui, c'est une affaire de femmes, mais vous rappelez que ça n'a pas toujours été le cas finalement.
Oui, tout à fait, parce que finalement, les hommes et les femmes qui ont des rapports hétérosexuels n'ont pas attendu la contraception médicale pour réguler le nombre d'enfants qu'ils et elles faisaient. Et en fait, la méthode la plus utilisée en France, avant la légalisation de la pilule et du stérilet, c'est le retrait. Et le retrait, c'est quelque chose qui est géré plutôt par les hommes, comme ça concerne principalement leur corps. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans les années 60, on trouve dans les textes d'archives que j'ai étudiés aussi, des choses comme un homme qui aime sa femme ne lui fait pas un gosse tous les ans. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a une responsabilité masculine en matière de contraception.
Dans certains milieux d'ailleurs, vous dites même dans le livre, un bourgeois ne faisait pas d'enfant à sa femme tous les ans. C'est une question de maîtrise de soi.
Voilà, c'est une question de maîtrise de soi, donc c'est une forme d'idéal, parce que évidemment, c'est compliqué, le retrait, c'est compliqué de se maîtriser. Donc c'est une forme d'idéal qu'il faut essayer d'atteindre et que tout le monde ne parvient pas à atteindre. Et quand on ne parvient pas à atteindre, quand finalement ça rate et qu'il y a une grossesse qui n'est pas désirée, l'avortement, ça a toujours été une affaire de femme.
Et d'ailleurs, ça peut paralyser ce que vous expliquez, ce qu'on lit très bien dans les entretiens que vous avez menés de ces femmes qui se souviennent à quel point avoir peur de tomber enceinte à ce moment-là, ça coupait tout désir, tout plaisir même.
Oui, tout à fait. C'est la peur au ventre dont parlent les historiennes. C'est l'idée que finalement, avoir un rapport sexuel en ayant toujours au-dessus de sa tête cette épée de Damoclès qui est une éventuelle grossesse, alors que soit on n'est pas marié dans une société où être fille-mère, c'est quand même très compliqué, soit avoir un enfant de plus alors qu'on n'a pas les moyens de l'avoir, forcément, ça incite pas à se focaliser sur son plaisir. Et ce qu'on va voir une fois que la pilule est légalisée, c'est quand même que malgré toutes les restrictions qu'on peut apporter, on voit dans les enquêtes quantitatives une augmentation du plaisir féminin, et ça, c'est indubitable.
Est-ce qu'il y avait des stratégies d'évitement, finalement? On préférait ne pas avoir de rapport, le moins possible, en tout cas, plutôt que de risquer une grossesse non désirée?
Dans la mesure où il y a peu de méthodes vraiment efficaces, l'abstinence est aussi effectivement très pratiquée. Alors ça, on le montre dans les travaux historiques, même un peu plus anciens. Par ailleurs, on est dans une société très catholique à l'époque, où toutes les méthodes sont interdites, le retrait est interdit. Les seules méthodes, c'est celle de, justement, d'abstinence périodique. Donc c'est sûr que le fait d'essayer d'avoir moins de rapports, c'est quelque chose d'important. Après, moi, dans les archives des milieux un peu plus populaires que j'ai étudiés, c'est compliqué pour pas mal de professions. Par exemple, les marins, les routiers, qui sont là très peu souvent. On voit des femmes qui disent « je ne peux pas lui dire non ». Donc voilà, c'est sûr que la question de l'abstinence se posait à l'époque de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui.
Alors, tout a changé, vous le disiez, évidemment, et on en a tellement parlé ces dernières décennies, de ces avancées permises, notamment par ces deux grandes lois, et pas que. Hein. Tout a changé avec la pilule, avec le recours légal possible à l'IVG. Mais vous, vous expliquez, et c'est un point de vue intéressant, parce que c'est un point de vue qu'on a peu eu jusqu'à présent, que la charge mentale, elle n'a pas disparu, en tout cas pour les femmes, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer peut-être, ou ce qu'on a beaucoup dit des années 70.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que tout change, mais en fait, tout avait déjà commencé à changer avant. Je pense qu'il faut peut-être juste insister un peu là-dessus. C'est parce que l'harmonie conjugale et l'harmonie sexuelle au sein du couple devient quelque chose de très important qu'on va avoir besoin de méthodes fiables. Alors qu'avant, c'était pas si important dans un couple d'avoir une sexualité épanouie. Donc, comme on a besoin de méthodes fiables, ben, on va développer de ces méthodes, donc la pilule, etc. Par contre, cet accès à une sexualité sûre, elle va se faire à un double prix pour les femmes, celui de la féminisation et celui de la médicalisation de la contraception. Et en fait, quand on y pense, la pilule, alors la France est un pays où la pilule va énormément se développer, beaucoup plus qu'ailleurs. La pilule, c'est quoi? C'est un médicament qu'on prend tous les jours, alors même qu'on est en bonne santé. Donc c'est sûr que c'est quand même une charge importante, à la fois financière à l'époque où c'est pas remboursé, et puis pour des pilules qui sont non remboursées, et puis il faut prendre rendez-vous chez le médecin, avoir sa plaquette, aller chez le pharmacien. Donc il y a toute une charge autour de la contraception, se renseigner, savoir quel médecin va nous prescrire la méthode qui nous convient. Et toute cette charge-là, c'est quelque chose qui apparaît à ce moment-là et qui est toujours existante, et surtout qu'on a naturalisée comme étant féminine. C'est-à-dire que ça nous semble évident aujourd'hui que la contraception, c'est un truc de femme. C'était pas le cas il y a 50 ans.
Vous dites que c'est une spontanéité préparée ou une spontanéité travaillée. C'est deux mots qui semblent ne pas aller ensemble et que vous collez pour dire, voilà, pour être disponible, c'est le titre de votre livre, hein, des corps disponibles, bah, y a beaucoup de choses en fait, à faire avant.
Oui, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Justement, on parlait d'abstinence tout à l'heure. Grâce aux méthodes médicales de contraception, on a accès à la pratique la plus répandue de la sexualité hétéro, c'est-à-dire la pénétration tout au long du mois, hein, pour parler tout au long du cycle féminin, mais à quel prix? Au prix que les femmes préparent leur corps. Et en fait, ça s'inscrit dans une préparation plus large, qui est aussi qu'on attend des femmes, l'épilation, le fait de faire particulièrement attention à son corps, et dans des moments qui sont préparés, en particulier dans les couples installés, c'est-à-dire prendre une babysitter, réserver un resto sympa, et puis là, spontanément, on a pris sa pilule, on est épilé, on a de la lingerie.
C'est très spontané, du coup.
C'est très spontané. Pour la moitié des acteurs de cette pièce.
Et elles vous disent quoi, les femmes que vous avez rencontrées sur cette question? Est-ce que c'est quelque chose que certaines avaient déjà, j'allais dire, intellectualisé? Ou est-ce que vous en êtes rendu compte alors que les femmes n'en ont pas toujours conscience?
Dans le rapport à la sexualité, non, c'est pas tellement intellectualisé, parce que la sexualité, aujourd'hui, c'est considéré comme quelque chose qui révèle notre moi le plus intime, et donc c'est compliqué de réussir à prendre du recul dessus. Et c'est là que les sciences sociales viennent mettre leur grain de sel en essayant de prendre ce recul-là. Par contre, aujourd'hui, ce qui transparaît très bien dans les discours, aussi bien que j'ai recueilli moi que médiatique, c'est le ras-le-bol de la charge contraceptive, de manière un peu plus large. Là, en 15 ans, la prise de pilule a été diminuée par deux en France, hein, donc c'est quand même très très important. Ça demeure la méthode la plus utilisé en particulier chez les jeunes femmes et à égalité avec le stérilet en population générale, mais ça a quand même beaucoup diminué parce que justement il y a l'idée que pendant des années on a considéré que c'était la méthode par défaut alors qu'il y a d'autres méthodes possibles et qu'il faut peut-être aller voir ces autres méthodes possibles pour trouver quelque chose qui convienne mieux et qui soit moins pesant au quotidien.
Est-ce que vous en avez parlé de ça avec les plus âgés de vos témoins qui justement sans doute en ont rêvé pendant longtemps de trouver la contraception qui les libérerait de cette peur de la grossesse non désirée? Est-ce qu'elles n'ont pas un peu le sentiment de voir les jeunes générations peut-être comme revenant sur des acquis si difficilement justement pour lesquels elles se sont battues?
Oui, alors c'est très très intéressant. En fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce qu'on a beaucoup de mal à distinguer en France. Il faut distinguer la pilule et la contraception. Et en fait, effectivement, les femmes qui ont commencé leur sexualité dans les années 60 me disaient quand la pilule arrive, ça nous fait les jambes lourdes, il faut aller chez le médecin, il faut raconter n'importe quoi au médecin parce que si, voilà, il faut lui raconter des choses pour avoir le droit à la pilule, mais c'est pas grave, c'est absolument génial, on s'en fiche d'avoir les jambes lourdes. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, elles râlent, etc. Sauf que pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, ce qui est absolument génial, c'est que on a confiance dans le fait qu'on va pas nous retirer la contraception. À l'époque, critiquer la contraception, c'était prendre le risque de donner des arguments à des adversaires réactionnaires qui auraient voulu que ce ne soit plus légal. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus ce risque-là. Et donc, on peut critiquer, mais pas critiquer pour supprimer la contraception, critiquer pour avoir accès à une contraception plus diverse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on commence à se dire, mais en fait, il n'y a pas que la pilule, il y a d'autres choses. Quelles sont ces autres choses? Il faut continuer à chercher. La pilule, ce n'est pas la fin de la contraception.
Et les hommes, ils en pensent quoi? Ils vous en ont dit quoi de tout ça?
Ah bah alors les hommes, déjà, ils ont été compliqués à interroger parce que quand on cherche des hommes à interroger sur la contraception, ils ne se sentent pas du tout concernés. Donc, ils me disent, bah non, j'ai rien à dire, c'est ma compagne qui s'en occupe.
C'est déjà quelque
déjà
chose
un résultat,
à noter.
Exactement, en soi. Donc, j'ai fait des entretiens sur le préservatif où, en fait, on parlait de contraception pour réussir à recruter les hommes. Non, les hommes, aujourd'hui, sont très, très peu investis dans la contraception. Hein, ça va avec cette question de la charge contraceptive que les femmes gèrent de manière très majoritaire. Par contre, on voit de toutes petites avancées. D'abord, parce qu'il y a quand même des recompositions dans les relations hétérosexuelles qui sont très lentes, mais avec l'idée que peut-être que ce n'est pas aux femmes de tout gérer ce qui concerne la vie sexuelle du couple. Et puis, on a des petites avancées aussi dans la recherche sur la contraception masculine. Alors, des contraceptions masculines, il y en a déjà qui existent. On peut penser à la vasectomie qui était très, très peu utilisée en France. Et là, pareil, en 15 ans, ça a été multiplié par 15. On est passé de 2 000 à 30 000 par an. Alors, ça ne reste pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus. Donc, c'est une première chose. La vasectomie, après, il faut être sûr de ne pas ou de ne plus vouloir d'enfant. Mais on voit la contraception thermique, par exemple, qui émerge, donc qui est quelque chose qui permet d'arrêter la spermatogénèse. Je ne vais peut-être pas détailler, mais en tout cas, qui peut convenir à certains hommes. Après, quand on étudie un petit peu ça, comme je le fais dans le livre, ce qu'on voit aussi, c'est que celles qui se renseignent le plus sur ces contraceptions masculines, ça reste les femmes.
Donc, on revient à la question de la charge mentale. Parmi les questions qui nous sont transmises par les auditeurs et les auditrices de France Inter, plusieurs d'entre elles évoquent le recours à l'IVG. Malgré tous les outils de contraception qui existent, nous dit notamment cet auditeur, comment se fait-il qu'il y ait encore autant d'avortements? Est-ce que c'est une question qui peut choquer d'ailleurs certains auditeurs? Est-ce qu'il y a un facteur d'explication?
Alors c'est une question importante parce qu'en fait, quand on repart peut-être un tout petit peu en avant, donc dans les années 60, quand le planning familial se bat pour la légalisation de la contraception, le planning familial à l'époque, il est anti-avortement. Il y a vraiment l'idée qu'avec la contraception légale, on n'aura plus besoin d'avortement, que ça va régler le problème. Sauf qu'en fait, on va très vite se rendre compte que d'une part, tout le monde n'a pas accès à une contraception qui conviennent. D'autre part, aucune contraception n'est efficace à 100% à part l'abstinence, ce qui est quand même un choix à faire en tout cas. Et donc finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la contraception va forcément de pair avec l'avortement parce que c'est pas une science exacte et qu'en fait, les rapports humains, les rapports sexuels, c'est pas une science exacte et que même la médecine ne va pas jusqu'à 100%. Donc l'avortement est obligatoire à penser de pair avec la contraception.
D'ailleurs, vous dites dans le cours de cet ouvrage qu'il y a une culpabilisation supplémentaire à l'égard des femmes qui ont recours à l'IVG alors que justement les moyens de contraception, comme vous le disiez, sont accessibles. Est-ce que c'est des choses dont les femmes et les hommes d'ailleurs que vous avez interrogés vous ont parlé?
Oui, alors moi j'ai pas travaillé directement là-dessus, mais Laurine Tizi a fait une thèse sur la stigmatisation qui perdure autour des femmes qui ont recours à l'avortement et notamment celles qui n'ont pas recours à l'avortement dans le seul cas qui vaut, c'est-à-dire un stérilet qui s'est déplacé, pour le dire rapidement. Donc ça c'est un premier point et l'autre point par rapport à l'avortement aujourd'hui, en plus de cette stigmatisation, c'est aussi que l'accès à l'avortement il reste quand même pas possible partout et tout le temps en France, même si on a inscrit l'IVG dans la Constitution, ce qui est une très bonne chose, et donc c'est quand même un droit qui reste à défendre aujourd'hui, à la fois en termes de représentation pour lutter contre cette stigmatisation et en termes vraiment matériels pour que les femmes aient accès à des centres d'IVG partout en France.
Alors vous dites aussi Cécile Thomé, diversifier la contraception. On en a parlé pour façonner de nouveaux scripts. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on est à l'heure du déjeuner, il y a peut-être des jeunes auditeurs derrière leur poste de radio, mais ce que vous dites, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un seul schéma dans une relation sexuelle, même hétérosexuelle, que la pénétration, pour le dire ainsi, n'est pas la seule pratique sexuelle qui existe, et que comme il y a la contraception, on imagine forcément qu'elle est possible, cette pénétration, sans risque de grossesse, et qu'on l'imagine un peu obligatoirement au menu en tout cas. Et vous dites on peut façonner autre chose dans l'imaginaire en tout cas des couples.
Oui, ce qui est intéressant c'est que depuis 50 ans il y a eu une énorme diversification du répertoire sexuel, donc beaucoup plus d'actes divers pendant l'acte sexuel. Voilà, les gens sont en train de manger leur mousse au chocolat donc je vais rester... pas forcément très descriptive, mais la pénétration conserve une place centrale dans le script hétéro. Il y a l'idée qu'il y a des préliminaires, hein, le terme même de préliminaire veut bien dire ce qu'il veut dire, puis voilà, la chose vraiment importante, et puis voilà. En fait, ce dont on se rend compte, par exemple, avec des gens qui utilisent des méthodes d'abstinence périodique, c'est qu'il y a des moments dans le mois où ils ne peuvent pas avoir accès à cette pratique-là, parce que justement, c'est dangereux si on ne veut pas d'enfants, et donc ils vont aller chercher d'autres choses, d'autres types de pratiques où la contraception sera plus centrale, et en particulier les femmes me disent « mais en fait, je me rends compte que ça m'apporte plus de plaisir ». Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que la pénétration, ça apporte statistiquement hein, plus de plaisir aux hommes qu'aux femmes. Et donc, aller penser d'autres choses, c'est aussi repenser les rapports de genre au sein de la sexualité.
Eh bien, pour en savoir plus et à pouvoir avoir tous les détails que l'on n'a pas abordés ici, des corps disponibles, comment la contraception façonne la sexualité hétérosexuelle, c'est donc votre ouvrage paru aux éditions La Découverte. Merci beaucoup, Cécile Thomé, sociologue chargée de recherche au CNRS, d'être venue ce midi.
Merci
dans le studio de France Inter. Et c'est l'heure maintenant de notre feuilleton. Depuis le début de la semaine, on suit le quotidien de Vincent Poirier, l'international français de basket, qui joue depuis le début de la saison avec le club turc de l'Anadolu Efes, un sportif au physique très reconnaissable, 2m13 et un corps couvert de tatouages. C'est d'ailleurs son autre grande passion. Et il la raconte au micro de Marie-Pierre Véraud.
Ça a commencé à la mort de mon père. Je n'étais pas encore professionnel, je devais avoir 19-20 ans. Je me suis tatoué et depuis, ça ne s'arrête pas. J'ai les deux bras, je n'ai pas encore fini le dos, mais il est bien rempli. J'ai le devant, les pectoraux, j'ai la jambe gauche, j'ai fait un sur le crâne, j'ai les mains, il y en a pas mal. Là, ça s'est calmé un peu, ça fait un moment que j'ai pas fait un tatouage. Mais pour moi, le tatouage, c'est un moment où tu partages avec ton artiste. Et moi, c'est comme ça, je le vois. Je suis pas chercher la perfection absolument. C'est plutôt un bon moment.
Et le premier, c'était quoi?
C'était « My first duty is to make my father proud ». Ça veut dire que mon premier devoir est de faire la fierté de mon père. C'était quelqu'un qui m'accompagnait dans tout ce que je faisais, qui venait le dimanche quand je jouais au foot dans des patelins paumés où il neigeait. Et il était tout le temps là, donc voilà, quand j'ai commencé le basket, il s'est mis à fond dedans, il a toujours été derrière, donc je trouvais que c'était une bonne façon de lui rendre honneur. Avant tout, ça avait une signification, donc celui-là, on va dire que c'était sur la famille, le bras gauche. Là, j'ai une jambe sur la mythologie grecque, parce que j'ai toujours été un fan de tout ce qui touchait à la mythologie. Là, il y a Zeus. Là, il y a le signe de Hermès. J'ai oublié son nom. Celle qui a les serpents, là. Médusa. Athéna, elle est là. Médusa, et voilà. Et donc, j'ai fait une fresque un peu sur toute la mythologie. Dans le dos, j'ai l'Égypte. Je suis un fan de... Bah, tout ce qui est un peu les dieux, les choses comme ça. J'ai toujours été intéressé par ça. J'ai jamais été en Égypte encore. Mais... ça devrait pas tarder, là, je deviens vieux, l'équipe de France, etc. Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps, peut-être. C'est compliqué d'aller dans certains pays pendant la carrière. Donc je réserve ça après, j'aurai le temps d'y aller, j'aurai le temps de profiter. Là, j'ai la date de naissance de ma fille. J'aime bien le cœur. C'est un premier dessin qu'on avait fait avec ma fille, donc elle en avait un sur la main, et moi je l'avais, donc je l'ai immortalisé, on va dire. Voilà, là, il y a une hanche de vie égyptienne. Avec la date de mort de mon père. Là, c'est un ange qui tient le Verseau et la Balance. Donc, c'est ma mère, mon frère et moi. Là, j'ai un taureau, c'était mon père. Voilà, et puis là, j'ai les initiales de ma mère.
J'avais vu le prénom de votre fille dans,
ouais,
dans le.
Il est là dans la nuque, ouais. Nola, parce qu'on était allé à New Orleans avec sa mère quand j'étais en NBA. Mais c'est vrai qu'on avait visité la ville et tout, et puis j'avais proposé. Nola, et je trouvais que ça allait bien. C'est original, on n'en croise pas tous les jours. Et voilà, maintenant elle a 4 ans. Ouais. Elle est là, elle vient au match, elle vient aux, ouais, entraînements. Je l'appelle avant chaque match, on a des petits rituels, des trucs comme ça. Donc voilà, ça a toujours été un peu mon look depuis pas mal d'années maintenant, parce que ça fait un moment que je suis tatoué. Et quand on parle de moi, c'est le grand blanc avec des tatouages et barbu. Donc je joue avec ça, hein, je prends, c'est toujours cool d'être reconnu pour quelque chose. Je sais pas si ça impressionne, moi je me sens à l'aise. En fait, ça m'aide moi, en fait, juste, je me sens bien comme ça, donc voilà. Après, si ça les impressionne, tant mieux, hein. Si ça fait peur, c'est encore mieux.
une semaine dans leur vie. Feuilleton signé cette semaine Marie-Pierre Véraud avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
À 18h et à 13h48, pardonnez-moi. Je vais essayer de vous donner l'heure juste. C'est la France nous emmène aujourd'hui au grand large, car on connaît désormais les vainqueurs du Grand des Globes. Charlie Dalin, Johan Richaume et puis Sébastien Simon, le troisième, qui est arrivé la nuit dernière au Sable d'Olonne. Mais les autres, eh bien, ils continuent de se battre sans relâche contre les vents et les vagues. Pas si facile, peut-être, de rester motivé quand tous les yeux sont braqués sur ceux qui sont déjà arrivés. Et on va ainsi prendre des nouvelles de Violette d'Orange, qui nous envoie régulièrement des messages depuis le début de la course. Elle est actuellement là à Benjamin, la 28e place au classement général.
C'est Violette. Là, on est à 67 jours de course. Je suis sur la remontée d'Atlantique au large de Buenos Aires. Et mon bilan, c'est simplement, je suis trop fière de tout le chemin parcouru. Je sais que j'ai traversé des moments pas faciles, j'ai traversé l'océan Indien, l'océan Pacifique, j'ai traversé des tempêtes. Je suis passée pas loin d'iceberg, j'ai eu des grains polaires avec de la neige, avec de la grêle. J'ai passé Cap Horn. Enfin voilà, tous ces moments, je sais que j'ai vécu déjà une aventure incroyable et je suis trop fière d'être ici. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de courbatures, mais je me sens super bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. La mer est plate et il y a du soleil, je retrouve de la chaleur et ça fait un bien fou après les mers du sud où il a fait très très froid et après toutes les tempêtes. Donc je retrouve vraiment du plaisir à pouvoir aller dehors, à me balader sur le pont. Ça me permet aussi de m'occuper de mon bateau et donc vraiment j'ai l'impression d'entrer dans l'été, de revivre un petit peu dehors depuis ces derniers jours et ça fait vraiment un bien. Le moment le plus chouette, je pense que c'est le passage de l'île des États. L'île des États, c'est une île qui est tout au bout de l'Amérique du Sud. J'ai passé cette île au lever du jour. C'était trop beau, la mer était toute plate et c'était vraiment magnifique. J'étais trop heureuse d'être ici, de revoir aussi un petit bout de terre parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vu la côte. Et puis, je me souviens aussi de l'odeur. Je sentais la terre humide. Et ça fait trop bizarre parce que ça faisait 2 mois que j'avais rien senti. J'avais pas senti l'odeur de la côte, en fait. Par contre, je ressens un petit peu le manque de mes proches. Et j'ai trop hâte de les serrer fort dans mes bras. Et comment je le gère ma seule astuce, c'est de coller plein de photos à l'intérieur de mon bateau, de mes proches, et c'est de me souvenir des bons moments. Ça commence à être difficile au niveau de l'alimentation, parce que je commence à me lasser des plats lyophilisés ou de tous les plats sous vide. Ça a toujours un peu le même goût, un peu la même consistance. Donc je continue d'en manger, mais sans grand appétit, on va dire. Je suis trop contente parce que hier, je suis montée tout en haut du mât. C'était une sacrée épreuve, assez flippant parce que c'est 28 mètres de hauteur. On voit le bateau tout petit en bas et puis on voit aussi l'étendue de l'océan. C'est assez beau. En fait, il fallait que j'aille récupérer une pièce pour pouvoir remplacer une autre qui était cassée qui me permet de tenir cette voile-là. Et donc, c'était très important que j'aille faire cette manip en haut de mon mât. Mais j'ai réussi, donc je suis trop fière de moi. Et ça me permet de pouvoir mettre quasiment toutes mes voiles pour la suite de la course. Et voilà, donc je vais continuer de bien ménager ma monture, de naviguer comme je sais faire, de continuer comme ça. Et il doit rester à peu près 25 jours, donc je vous tiendrai au courant. À bientôt.
Voilà pour le témoignage de Violette d'Orange sur la route du Vendée Globe. On va un peu retrouver aussi son carnet de bord hein, sur son compte Instagram, sur TikTok. Elle qui est la concurrente la plus suivie sur les réseaux sociaux avec plus de 700 000 abonnés. De C'est la France à C'est une chanson et un hommage à David Lynch aujourd'hui avec vous, Frédéric Pommier, puisqu'on va réécouter l'entretien que vous avez réalisé en novembre dernier avec l'actrice Isabella Rossellini.
Isabella Rossellini qui a été la compagne de David Lynch et qui a tourné 2 longs métrages avec lui. Sailor et Lula en 1990 et 4 ans plus tôt Blue Velvet, dans lequel elle tient l'un des rôles principaux, celui d'une jeune femme sous le joug d'un gangster psychopathe avec Isabella Rossellini. Nous avions parlé de la chanson du film, la chanson Blue Velvet, et elle m'avait tout d'abord raconté sa rencontre avec David Lynch, c'était au milieu des années 80.
Le film a été produit par Dino De Laurentiis, qui est un grand producteur italien, qui habitait aux États-Unis, et il avait ouvert aussi un restaurant. Et moi, je suis allée manger avec une amie et la femme de Dino, Marta. Et dans une table à côté, il y avait David avec une autre de la famille De Laurentiis. Donc nous avons mis les tables ensemble, et on a commencé à papoter, à parler. Et David, la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Tu ressembles beaucoup à Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, c'est ma mère. » Alors, la femme de Dino De Laurentiis, il lui a dit « Mais t'es un idiot, c'est la fille d'Ingrid Bergman. » Ah bon, tu lui ressembles beaucoup. Voilà. C'est commencé comme ça. Et il voulait beaucoup faire le film avec Helen Mirren. Moi, je venais de finir un film avec Helen Mirren qui s'appelait Le Soleil de minuit. Et il m'a dit, donne-moi son numéro de téléphone. J'ai dit, mais je ne peux pas te donner son numéro de téléphone. C'est indiscret. Et puis, le jour suivant, j'ai reçu le scénario de Blue Velvet avec une petite note de David en disant, en réfléchissant, je suis en train de penser ce peut-être tu veux jouer le rôle. J'étais très honorée.
Ce film, il a transformé votre vie ?
Oui, il a changé ma vie du fait que moi j'étais connue comme mannequin, donc quelqu'un qui était pas battu, une anxiété terrible comme le personnage que j'ai joué. Donc il m'a aussi ouvert des portes en tant qu'actrice. She wore blue. She wore blue velvet. Bluer than velvet was the night. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light. Softer than satin was the light. From the stars. From the stars. She wore blue velvet. She wore blue velvet. Bluer than velvet were their eyes. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May, her tender sighs. Love was ours.
Alors cette chanson, Frédéric, elle a été écrite au début des années 50.
Mais cette version-là, la version qu'on entend, date de 1963. C'est la version du film. On la doit à Bobby Vinton.
Quand David Lynch m'a proposé de faire le film, on est allés aussi ensemble à Las Vegas rencontrer Bobby Vinton, pour lui demander de donner les droits de chanter la chanson et aussi de titre. Et on n'était pas connus. Et Bobby Vinton était très gentil. Il me regardait comme des jeunes gens. Moi, j'étais encore des fans de lui, donc il était ravi. Et puis, il nous a donné le droit d'utiliser soit le titre, soit la chanson.
Et vous avez utilisé les deux.
Et on a utilisé les deux.
Et cette chanson, votre personnage la chante également.
Oui, je la chante complètement différemment que Bobby Vinton. Et je me souviens que souvent je l'entendais quand j'entrais dans des bars ou des restaurants. J'écoutais la chanson avant chantée par Bobby Vinton et puis on l'est suivi par moi.
Ce film Blue Velvet, c'était pour vous la découverte d'un premier grand rôle au cinéma ? La découverte de David Lynch aussi, avec lequel vous avez vécu plusieurs années ensuite. J'ai lu dans une interview que vous l'avez longtemps considéré comme l'amour de votre vie.
Oui, j'étais très amoureuse de David. On est très amis, encore on se parle. Pas très souvent, mais on s'envoie des textos très souvent. Un jour, je rêvais qu'il était mort. Je lui ai écrit « T'es mort ?» Il m'a répondu « Just I'm alive ». Donc des fois, c'est des choses très brefs.
On peut être très amis après une rupture qui a été douloureuse ?
Tout de suite après, non, parce que j'en souffrais beaucoup, donc je ne crois pas qu'il avait envie de me parler, de faire face à ma douleur. Mais après, avec les années, oui. Et j'étais très touchée parce que David a reçu un Oscar à sa carrière. Et il a demandé que je suis moi à lui présenter l'Oscar. Ça m'a beaucoup émue. Et je l'ai appelé pour me dire, mais tu veux que ce soit moi, vraiment ? Tu veux pas que ce soit, je sais pas, Laura Dern ? Il a dit, non, je veux que ce soit toi. Mais quand même, je suis allée avec Laura Dern. On était à deux anges gardiens. Non, on est restés très proches.
Through my tears.
jusqu'aux dernières notes. Blue Velvet de Bobby Vinton, dont parlait avec vous Frédéric Pommier, l'actrice Isabella Rossellini. Dernier hommage à David Lynch pour conclure donc ce 13-14. Merci Frédéric. Merci aussi à celles et ceux qui ont fabriqué le 13-14 cette semaine. À la rédaction en chef, Estelle Schmitt, Sébastien Sabiron et Cécilia Arbonin, avec Claire-Sophie Collet à la programmation. À la technique, Ludovic Asselot et Arnaud Caillé, assisté de Nicolas Sabat, Sylvain Lesage, Rachid Zourdani et Stéphane Rousset. Merci également à tous les standardistes de France Inter. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Céline Asselot.
Quel est le programme de la Terre au carré ?
Mon invité au carré, nous sommes vendredi, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue.
Merci Mathieu, à tout de suite.